Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous sommes persuadés que la Vierge Marie est heureuse aujourd'hui, qu'elle vous regarde avec joie et qu'elle a reçu vos supplications tout au cours de cette nuit de prière avec beaucoup de consolation. Vous avez en définitive, à l'initiative de quelques laïcs bien fidèles, vrais catholiques, obéi à la très sainte Vierge Marie. En effet, dans toutes ces apparitions, et en particulier à Fatima, elle nous a demandé de prier. Elle nous a demandé de faire pénitence. Et alors vous êtes venus, pour beaucoup d'entre vous, de très loin, malgré les intempéries, vous avez accepté cette pénitence et vous êtes venus prier. Prier la Vierge Marie, à laquelle, tout à l'heure, nous obéirons nous aussi, en répétant après le pape Pie XII les paroles de la consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de Marie. Quel est le chrétien conscient, quel est le catholique fidèle qui ne ressent pas aujourd'hui le besoin de prier, de faire pénitence dans les circonstances dans lesquelles se trouve le monde? Nous sommes un peu comme l'été ceux qui avaient invité aux noces de Cana leurs amis et qui, n'ayant plus de vin, se tournèrent vers la Vierge Marie avec des regards de demande instante à la Mère de Jésus pour qu'elle s'adresse à son divin Fils et qu'elle leur enlève ce souci de ne plus donner de vin à leurs invités. Et Marie alors se tourna vers Jésus et elle lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Alors Jésus a accompli ce miracle magnifique de transformer l'eau en vin. C'est là l'image de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous aussi, nous tournons nos regards vers la Vierge Marie, où se trouve encore aujourd'hui la grâce de Dieu, où se trouve encore la vie divine dans ce monde. Car le vin n'est autre chose que le symbole du sang de Jésus-Christ qui nous donne la vie divine. Alors, nous écouterons la parole de la très sainte Vierge Marie qui dit à ceux qui sont venus lui demander ce miracle: faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Eh bien, nous aussi, nous prenons la résolution d'écouter la Vierge Marie et de faire tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Et qu'est-ce que nous apprend notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous révèle-t-il? Il nous révèle que ses plus belles créatures, ses créatures les plus admirables, les plus parfaites, n'ont pas bien usé de la liberté que notre Seigneur leur a donnée comme Dieu. Oui, il nous a appris que dans le ciel a eu lieu ce combat extraordinaire entre les bons anges et les mauvais anges, entre ceux qui voulaient se faire Dieu. Et Saint Michel-Archange, prenant la tête de tous les anges fidèles à Dieu, a dit « Quis ut Deus, qui est comme Dieu ?» Et il a précipité les mauvais anges en enfer, révélation que le bon Dieu nous fait. Ce n'est donc pas seulement sur la terre que les hommes usent mal de leur liberté, de ce don extraordinaire que le bon Dieu leur a fait pour qu'ils fassent le bien et non pas pour qu'ils fassent le mal. C'est déjà dans le ciel. Et alors la situation est telle que désormais pour l'éternité, il y aura d'une part la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, uni au Père et au Saint-Esprit, qui rayonnera dans les cœurs de tous les élus, de tous ceux qui seront unis à Dieu, des saints anges, de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de tous les saints, de tous les martyrs, de tous ceux qui auront suivi la loi de Dieu, qui l'auront aimé ici-bas, et puis l'enfer. L'enfer où pour toujours, ceux qui sont opposés à Dieu, ceux qui ont voulu se faire Dieu, se trouvent dans un état de rupture éternelle avec Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Et alors il est venu parmi nous pour réparer le péché de nos premiers parents qui avaient abusé de leur liberté et qui avaient désobéi à Dieu. Et il s'est trouvé par conséquent, lui aussi, confronté, opposé à ceux qui lui en voulaient à mort. Car Satan, s'il ne peut plus rien faire au ciel, parce qu'il est désormais définitivement jugulé dans l'enfer, il peut encore travailler ici-bas et essayer de fournir à l'enfer des âmes en nombre toujours grandissant. Dieu lui permet de faire ce travail. Et nous avons vu en effet notre Seigneur Jésus-Christ poursuivi par Satan lui-même, par le démon lui-même. Et en définitive, Satan a cru que sa victoire était enfin arrivée. Il a réussi à faire crucifier Dieu lui-même dans son corps, dans son âme. Dieu est apparu mort. Il a poussé son dernier soupir. Satan criait victoire, car c'est bien Satan qui a voulu le crucifier. C'est dans l'Évangile, lorsque Judas est parti pour trahir notre Seigneur, lorsqu'il a reçu le pain que notre Seigneur lui donnait, l'Évangile dit, Satan prit possession de son âme. C'est donc bien une lutte entre notre Seigneur et tous ceux qui ont voulu le crucifier. Et qui donc s'est présenté comme instrument de la crucifixion de notre Seigneur? Les fausses religions et les mauvais gouvernements. Et ceci est dans l'Évangile. Les scribes et les pharisiens dirent « Que vous ensemble ?» Il a blasphémé parce qu'il se fait le Fils de Dieu. Et puisqu'il a blasphémé, nous devons le crucifier. Oui, à ce moment-là, Israël quittait la religion que Jésus leur avait enseignée. Et au lieu de reconnaître la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont refusé le Messie et ils l'ont crucifié. Et ce sont encore eux qui ont dit, au nom des gouvernements païens, à Pilate, qui hésitait de le faire crucifier, « Si tu ne le fais pas mourir, tu n'es pas l'ami de César, car il se fait roi, et quiconque se fait roi est contre César. » Vous voyez, c'est clair, dans l'Évangile. ce sont les fausses religions et les mauvais gouvernements qui crucifient notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme vous le savez, notre Seigneur leur échappe. Satan a cru le faire mourir définitivement, et les scribes et les pharisiens aussi, et notre Seigneur ressuscite. Et il monte au ciel, triomphant, glorieux, désormais, pour l'éternité. Il rejoint la gloire de son Père et du Saint-Esprit dans la Trinité Sainte. Mais il institue l'Église, son corps mystique, qui continuera la lutte, qui sera désormais sujet à toutes les attaques du démon et de tous ceux qui veulent détruire notre Seigneur. Puisque notre Seigneur leur a échappé, ils persécuteront les membres de l'Église. Et c'est bien ce que notre Seigneur a dit à Paul, à Saul, sur la route de Damas. « Pourquoi me persécutes-tu ?» Par conséquent, notre Seigneur considérait que la persécution faite contre ses membres, c'était le persécuter lui-même. « Pourquoi me persécutes-tu ?» Oui, l'Église, c'est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, par tous les moyens, au cours de l'histoire de l'Église, vous avez pu voir, vous avez pu connaître que ce combat a continué par les hérésies, par toutes les attaques que l'Église a subies au cours de son histoire, par tous les martyrs et par tous ceux qui ont été témoins de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Église. Et alors ce combat se poursuit, et il se poursuit de nos jours, et il se poursuit particulièrement avec, à nos côtés, la très sainte Vierge Marie. Et la très sainte Vierge Marie est entrée dans le combat. Elle ne fait pas du pacifisme, la très sainte Vierge Marie. Elle est forte, dit l'Écriture, comme une armée rangée en bataille. C'est elle qui représentait, écrasant la tête de Satan. Elle lutte par conséquent. Elle est à nos côtés pour lutter. Alors, que ferons-nous, nous, chrétiens du XXe siècle, membres du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ? Allons-nous déposer les armes? Et c'est là le drame de l'Église aujourd'hui. On voudrait nous faire déposer les armes. On voudrait nous faire entrer dans une espèce de pacifisme qui est ni plus ni moins qu'une lâcheté. Devant l'ennemi, devant Satan, devant tous ceux qui attaquent l'Église, devant ceux qui veulent la ruine de l'Église, devant ceux qui veulent écraser tous les chrétiens, en finir, enfin, avec notre Seigneur Jésus-Christ, ici-bas, nous allons déposer les armes. Les armes de la prière, d'abord. Nous ne prierons plus. Les églises seront vides. On ne viendra plus adorer le Saint-Sacrement. On ne priera plus la Vierge Marie. Alors Satan peut être heureux. Il a gagné une grande victoire. Et il emmènera avec lui en enfer des millions et des millions d'âmes. Voilà, mes bien chers frères, le grand drame que l'Église subit aujourd'hui, bien plus grand que les attaques des musulmans au temps de Saint Pie V, bien plus grand que le protestantisme au XVIe siècle, bien plus grand que toutes les hérésies, tous les schismes. Aujourd'hui, le mal est à l'intérieur de l'Église. Et nous devons bien le reconnaître. Jusqu'au Concile Vatican II, les papes, les évêques, les prêtres luttaient courageusement à côté des fidèles, entraînaient les fidèles à la lutte contre Satan et contre toutes les œuvres de Satan. Or, on était stupéfaits de constater qu'à partir de ce concile, à cause de deux attitudes, je dirais, de ceux qui avaient les responsabilités dans l'Église, deux attitudes qui sont contraires à ce combat, qui détruisent le combat. On a dit que maintenant on était arrivé à une période où il fallait la paix à tout prix. Et alors on a usé, vis-à-vis des religions, de l'œcuménisme, de toutes les religions qui attaquaient l'Église. On a dit maintenant il faut faire l'union, il faut déposer les armes, nous embrasser tous, faire l'union. L'union de la vérité avec l'erreur. L'union des ténèbres avec la lumière. L'union de Satan avec Dieu. C'est ce que dit saint Paul. Est-ce possible? Voilà cet œcuménisme qui voudrait embrasser toutes les religions. Et puis, ce qu'on a appelé cette hausse politique. Le Vatican a changé de politique. Désormais, il faut s'entendre aussi avec tous ces gouvernements hostiles, hostiles à l'Église, qui n'ont qu'un but, détruire notre Seigneur Jésus-Christ dans ses membres, dans son Église. C'est leur seul but. Ils emploieront tous les moyens, le mensonge, et à plus forte raison, le dialogue, si ça peut leur servir. Et alors voilà qu'on a entrepris la coexistence pacifique, la détente, le dialogue. Et on a livré à ces gouvernements les pauvres prêtres et les pauvres fidèles qui luttaient, eux, pour la défense de leur foi. Actuellement, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, ce sont des évêques qui sont ce qu'on appelle des prêtres de la paix qui ont été nommés et qui sont par conséquent au service du gouvernement, comme l'Église orthodoxe russe qui est complètement au service du gouvernement communiste. Et alors ces évêques poursuivent les bons prêtres, poursuivent les bons catholiques, parce qu'ils n'obéissent pas au gouvernement communiste, parce qu'ils veulent faire baptiser leurs enfants, parce qu'ils veulent faire enseigner le catéchisme à leurs enfants, parce que les prêtres veulent sortir de leur église pour aller voir les malades, porter la communion aux malades, enseigner le catéchisme secrètement, aller confesser les gens dans les maisons, s'ils ont de la difficulté de venir dans les paroisses. Tout cela est contraire au règlement du gouvernement communiste. Alors les évêques poursuivent ces bons prêtres. Et je dirais qu'il en est, c'est la même chose avec nous. De même que, je dirais, ces bons prêtres et ces bons catholiques sont immolés sur l'autel de l'os politique et du dialogue avec les mauvais gouvernements, de même nous, nous sommes immolés sur l'autel de l'œcuménisme. Parce que nous gênons l'œcuménisme. Vous gênez l'œcuménisme, bien cher frère. En maintenant la foi catholique qui veut qu'il n'y ait qu'une seule Église, il n'y a pas deux religions, il n'y a que la religion de Dieu, la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il est venu sur terre pour fonder la religion, il n'y a pas deux religions, il n'y a qu'une religion, la religion catholique. Et par conséquent, si nous croyons qu'il n'y a qu'une seule religion, nous devons prier, faire pénitence pour la conversion des âmes, pour la conversion. Et non pas seulement pour les embrasser avec leurs erreurs et leurs vices. C'est leur rendre un mauvais service, c'est les tromper. Ça a toujours été l'attitude de l'Église, envoyer des missionnaires à travers le monde, même s'ils doivent être martyrs, afin de conquérir les âmes à Jésus-Christ et à l'Église. Nous n'avons jamais entendu dire que désormais il ne fallait plus de missionnaires. Alors, nous maintiendrons, nous voulons continuer l'Église catholique, nous voulons maintenir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons proclamer que l'Église catholique est la vraie religion et que tout le monde est appelé à se convertir à l'Église catholique. Et pour cela, nous prierons, nous ferons pénitence et nous essaierons par tous les moyens possibles à notre disposition de faire du bien autour de nous afin de convertir les âmes. Voilà, mes bien chers frères, la résolution que nous devons prendre aujourd'hui. et particulièrement d'avoir la dévotion vers la très sainte Vierge Marie et à son cœur immaculé. Avec elle, nous combattrons, nous continuerons le combat. Nous continuerons le combat contre nous-mêmes, contre tout ce que nous avons de mauvais en nous, tout ce qu'il y a de mauvais dans nos familles, tout ce qu'il y a de mauvais dans nos cités, afin que règne notre Seigneur Jésus-Christ, partout et toujours. Et nous prierons le bon Dieu et la très sainte Vierge Marie de nous aider à continuer ce combat. Alors nous ne laissons pas prendre par ce faux œcuménisme. Et c'est cet œcuménisme qui a transformé complètement notre sainte liturgie. Pour nous unir aux protestants, on a transformé notre sainte liturgie. Alors nous refusons cette transformation, parce que nous ne voulons pas devenir protestants, parce que nous ne voulons pas prendre la même l'Eucharistie, donner l'Eucharistie aux protestants. Ils n'ont pas notre foi. Ils ne peuvent pas prendre notre Eucharistie. Nous voulons les convertir avant, les convertir à notre foi. Et alors, ils pourront avec joie prendre et recevoir notre Eucharistie, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes bien chers frères, ce que je voulais vous dire. Tout à l'heure, nous nous unirons, n'est-ce pas, tous ensemble, avec Notre-Dame de Fatima, avec tous ceux qui ont confiance en Notre-Dame, et particulièrement le magnifique et vénéré pape Pie XII, qui a fait cette consécration au cœur immaculé de Marie. Nous répéterons ses propres paroles, afin de mettre toute notre vie, nos âmes, sous la protection du cœur immaculé, et demander que le règne de Marie arrive sur le monde et sur les âmes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, la Providence a des délicatesses, puisqu'elle a voulu que cette nouvelle rentrée du séminaire coïncide avec l'anniversaire de mon sacre épiscopal, qui a eu lieu le 18 septembre 1947 dans ma ville natale. Et c'est ainsi que, sur la demande de Dany, nous avons voulu fêter d'une manière particulière cet anniversaire. Et ce matin, nous lisions dans le bréviaire les leçons de Tobie. Et il était dit que le jeune Tobie, alors qu'il se trouvait entouré de juifs, d'hommes de sa race qui adoraient les veaux d'or établi par le roi d'Israël lui-même, lui au contraire, fidèlement, se rendait au temple et offrait les sacrifices prévus par la loi tels que Dieu l'avait demandé lui-même. Il était donc fidèle à la loi de Dieu. Bien, nous espérons que nous aussi, nous sommes fidèles, fidèles à Dieu, fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Tobie fut ensuite emmené en captivité à Ninive. Et là, dit l'Écriture, alors que tous ses compatriotes se soumettaient au culte païen qui les entourait, lui également garda la vérité, retinuit omnem veritatem. Il a retenu toute la vérité. Et je crois que c'est une leçon qui nous est donnée par la Sainte Écriture, et nous espérons que nous aussi nous sommes fidèles comme Tobie l'a été. Fidèle dans sa jeunesse, fidèle plus tard dans la captivité, et n'est-il pas vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans une certaine manière dans une captivité qui nous entoure de partout. Une captivité qui se manifeste partout. Captivité qui nous est imposée par ceux qui se soumettent à l'esprit mauvais dans le monde et même à l'intérieur de l'Église, ceux qui jugulent la vérité, qui la tiennent en esclavage au lieu de la manifester, au lieu de la montrer. Nous sommes dans un monde esclave, esclave du démon, esclave de toutes les erreurs de ce monde. Mais nous voulons garder la vérité. Nous voulons continuer à manifester la vérité. Mais quelle est donc cette vérité? L'avons-nous en monopole? Sommes-nous à ce point présomptueux que nous pouvons dire « Nous avons la vérité, les autres n'ont pas la vérité ?» Cette vérité ne nous appartient pas. Elle n'est pas à nous. Elle ne vient pas de nous. Elle n'a pas été inventée par nous. Cette vérité, elle nous est transmise. Elle nous est donnée. Elle est écrite. Elle est vivante dans l'Église. Elle est vivante dans toute l'histoire de l'Église. Cette vérité est connue. Elle est dans nos livres. Elle est dans nos catéchismes. Elle est dans tous les actes des conciles. Elle est dans les actes des souverains pontifes. Elle est dans notre credo, dans notre décalogue, dans les dons que le bon Dieu nous a faits, du saint sacrifice de la messe et des sacrements. Ce n'est pas nous qui les avons inventés. Nous ne faisons que persévérer dans la vérité. Car la vérité a un caractère éternel. La vérité que nous professons, c'est Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, et Dieu ne change pas. Le bon Dieu demeure dans l'immutabilité, et c'est saint Paul qui nous le dit, « Nec vicissitudini sum umbratio ». Il n'y a même pas une ombre de vicissitude en lui, mais une ombre de changement en Dieu. Dieu est immuable. Semper idem, toujours le même. Il est certes lui la source de tout ce qui change, de tout ce qui se meut dans l'univers, mais il est immuable. Et par le fait même que nous professons Dieu comme vérité, nous entrons en quelque sorte par la vérité dans l'éternité. Nous n'avons donc pas le droit de la changer, cette vérité. Elle ne peut pas changer, elle ne changera jamais. Elle ne changera jamais. Les hommes sont mis sur terre pour recevoir un peu de cette lumière de l'éternité qui descend sur eux. Ils deviennent en quelque sorte éternels, eux aussi immortels, dans la mesure où ils s'attachent à la vérité de Dieu, dans la mesure où ils s'attachent aux choses qui changent, aux choses mouvantes. Ils ne sont plus avec Dieu. Et c'est ce dont nous sentons le besoin. Tous les hommes sentent le besoin. Ils ont en eux une âme immortelle, immortelle, qui est maintenant dans l'éternité. Âme qui sera heureuse ou malheureuse, mais cette âme existe et elle ne mourra plus, c'est fini. Les hommes, tous ceux qui sont nés, tous ceux qui ont eu une âme, sont entrés dans l'éternité. Et c'est pourquoi ils ont besoin de la véritable éternité, de l'éternité qui est Dieu, des choses éternelles. Nous avons besoin de cela. Nous ne pouvons pas nous en passer, ça fait partie de notre vie et de ce qu'il y a de plus essentiel en nous. De ce qu'il y a de plus essentiel en nous. C'est pourquoi les hommes recherchent la vérité, recherchent l'éternité. Ils ont un besoin essentiel en eux d'éternité. Et quels sont ces moyens par lesquels notre Seigneur nous a donné l'éternité, nous donne, nous communique l'éternité, nous fait devenir, nous fait entrer dans notre éternité, ici-bas même. Souvent, lorsque je traversais ces pays d'Afrique, lorsqu'on me demandait de venir visiter les diocèses, je choisissais un thème qui m'était cher, qui d'ailleurs est très simple, que vous avez déjà entendu maintes fois, mais qui concrétisait pour ces populations simples auxquelles j'avais à parler, à prêcher la vérité. Je leur disais, mais quels sont les dons que le bon Dieu nous a donnés et qui nous font participer à la vie divine, à la vie éternelle, qui commence à nous mettre dans l'éternité. Je disais, il y a trois dons principaux que le bon Dieu, que Dieu nous a fait, que notre Seigneur nous a fait. Le pape, la très sainte Vierge et le sacrifice eucharistique. Trois dons extraordinaires que le bon Dieu nous a fait. Le pape, la très sainte Vierge et le sacrifice eucharistique. Et en effet, c'est un don extraordinaire que nous a fait le bon Dieu de nous donner le pape, de nous donner des successeurs de Pierre, de nous donner justement cette pérennité dans la vérité qui nous est communiquée par les successeurs de Pierre, qui doit être communiquée par les successeurs de Pierre. Et il semble inconcevable qu'un successeur de Pierre puisse faillir en quelque sorte à la communication de la vérité qu'il doit communiquer, parce qu'il ne peut pas, sans, je dirais, presque disparaître de la lignée des papes, ne pas communiquer ce que les papes ont toujours communiqué, le dépôt de la foi, qui ne lui appartient pas non plus. La vérité du dépôt de la foi n'appartient pas au pape. C'est un trésor qui est mis dans ses mains lorsqu'il est nommé souverain pontife, successeur de Pierre, évêque de Rome, et donc successeur de Pierre. Il tient dans ses mains le trésor de la vérité qui a été enseigné pendant 20 siècles, et il doit le transmettre fidèlement et exactement à tous ceux auxquels il est chargé de parler, de communiquer la vérité de l'Évangile. Il n'est pas libre. Et donc, dans la mesure où il arriverait par des circonstances absolument mystérieuses que nous ne pouvons pas comprendre, qui dépassent notre imagination, qui dépassent notre conception, s'il arrive qu'un pape ou que celui qui est assis sur le siège de Pierre vienne à obscurcir en quelque sorte la vérité qu'il doit transmettre, ou à ne plus la transmettre fidèlement, ou à laisser l'obscurité de l'erreur cacher en quelque sorte la vérité, dans ce cas, nous devons prier Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, que la lumière se fasse en celui qui est chargé de la transmettre. Mais nous ne pouvons pas changer de vérité pour autant. Nous ne pouvons pas tomber dans l'erreur, nous ne pouvons pas suivre l'erreur, parce que celui qui a été chargé de nous transmettre la vérité serait faible et laisserait l'erreur se dispenser tout autour de lui. Nous ne voulons pas que les ténèbres nous envahissent, nous voulons demeurer dans la lumière de la vérité. Et nous demeurons dans la fidélité à ce qui a été enseigné pendant 2000 ans. Parce qu'il est inconcevable que ce qui a été enseigné pendant 2000 ans, et qui est, comme je vous l'ai dit, une part d'éternité, c'est l'éternité qui nous a été enseignée. C'est Dieu éternel, c'est Jésus-Christ, Dieu éternel. Et tout ce qui est fixé en Jésus-Christ est fixé dans l'éternité. Tout ce qui est fixé en Dieu est fixé pour l'éternité. Jamais on ne pourra changer le fait qu'il y ait la Trinité. Jamais on ne pourra changer le fait de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ par la croix et par le sacrifice de la messe. Ce sont des choses éternelles qui appartiennent à l'éternité, qui appartiennent à Dieu. Comment quelqu'un ici-bas pourrait changer ces choses-là ? Quel est le pape qui se sentirait le droit de changer ces choses-là, les modifier ? Impossible, impossible. Quand nous tenons le passé, nous tenons le présent et nous tenons l'avenir. Parce qu'il est impossible, je dirais métaphysiquement, divinement impossible, de séparer le passé du présent et de l'avenir. Impossible. Où Dieu n'est plus Dieu. Où Dieu n'est plus éternel, où Dieu n'est plus immuable. Et alors il n'y a plus rien à croire. Nous sommes dans l'erreur complètement. C'est pourquoi, sans nous préoccuper de ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, nous devrions fermer les yeux sur l'horreur du drame que nous vivons. Fermez les yeux. Répétez notre credo. Répétez notre décalogue. Répétez le sermon sur la montagne, qui est notre loi également. Nous attacher au Saint-Sacrifice de la messe. Nous attacher au sacrement. En attendant que la lumière se fasse à nouveau autour de nous. C'est tout. Voilà ce que nous devons faire. Et non pas entrer dans des rancœurs, dans des violences, dans un état d'esprit qui ne serait pas fidèle à notre Seigneur, qui ne serait pas dans la charité. Restons, demeurons dans la charité, prions, souffrons, acceptons toutes les épreuves, tout ce qui peut nous arriver, tout ce que le bon Dieu peut nous envoyer comme épreuve. Faisons comme Tobie. Tous les siens avaient abandonné, ils adoraient les veaux d'or, ils adoraient les dieux des païens. Il est resté fidèle. Et pourtant, lui-même, il devait peut-être penser que, tout seul, dans la fidélité, il risquait de manquer à la vérité. Mais non, il savait que ce que Dieu avait enseigné à ses pères ne pouvait pas changer. La vérité de Dieu existait, elle ne pouvait pas changer. Bien, nous aussi, nous devons nous appuyer sur la vérité qu'est Dieu, qui est hier, aujourd'hui et demain. Jésus Christus, eri, odie et in secula. Et c'est pourquoi, je dirais, nous devons garder la confiance dans la papauté, nous devons garder la confiance dans le successeur de Pierre. En tant que successeur de Pierre, en tant qu'il est successeur de Pierre, mais si d'aventure il n'était pas parfaitement fidèle à sa fonction, alors nous devons rester fidèles au successeur de Pierre et non pas à celui qui ne serait pas successeur de Pierre. C'est tout, puisqu'il est chargé de nous transmettre le dépôt de la foi. Et puis le deuxième don, c'est celui de la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie, elle, n'a jamais changé. Imaginez que la Très Sainte Vierge Marie ait pu changer sur l'idée qu'elle pouvait se faire de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, sur le sacrifice de la croix que son divin Fils devait subir, sur l'œuvre de la rédemption. La Très Sainte Vierge a-t-elle pu changer d'un iota dans sa foi? A-t-elle pu, à une époque de sa vie, avoir des doutes? A-t-elle pu entrer dans l'erreur? A-t-elle pu douter de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? A-t-elle pu douter de la Très Sainte Trinité, elle qui avait été remplie du Saint-Esprit? Impossible, inconcevable. Elle était déjà, ici-bas, entrée dans son éternité, la Très Sainte Vierge Marie, par sa foi, par une foi immuable, par une foi profonde, par une foi qui ne pouvait pas changer, mais ne pas être ébranlée en aucune manière. C'est évident, évident. Et cette Sainte Mère, nous devons lui demander d'avoir sa fidélité, Virgo Fidelis, Vierge fidèle. Demandons à la Très Sainte Vierge d'avoir sa fidélité. Ne nous laissons pas entraîner par les bruits qui courent de droite, de gauche. Fidélité, fidélité, comme la Très Sainte Vierge Marie. Et j'ajouterai au sujet de la Très Sainte Vierge Marie une chose qui me paraît importante. Pour nous, à notre époque, dans le moment où nous vivons actuellement, à tout instant, on nous dit « la Vierge a dit ceci, la Vierge a dit cela, la Vierge est apparue ici, la Vierge a communiqué tel message à telle personne ». Bien, nous ne sommes pas contre la possibilité d'une parole que la Très Sainte Vierge puisse adresser à des personnes de son choix, évidemment. Mais nous sommes dans une période telle, actuellement, que nous devons nous méfier. Nous devons nous méfier. Et la place de la Très Sainte Vierge Marie, dans la théologie de l'Église, dans la foi de l'Église est, à mon avis, infiniment suffisante pour nous faire aimer la très sainte Vierge par-dessus toutes les créatures après notre Seigneur Jésus-Christ, et nous faire avoir une dévotion envers la très sainte Vierge qui est une dévotion profonde, continuelle, quotidienne. Il n'est pas nécessaire pour nous que nous ayons constamment recours à des messages dont nous ne sommes pas absolument certains qu'ils viennent ou non de la très sainte Vierge. Ah, je ne parle pas des apparitions qui ont été reconnues par l'Église et qui sont ouvertement reconnues par l'Église. Mais nous devons être très prudents en ce qui concerne les bruits que nous entendons partout aujourd'hui. C'est à tout instant que je reçois des personnes ou des communications qui me sont données de la part de la très sainte Vierge, de la part de notre Seigneur, de la part d'un message reçu ici, reçu là. Nous le souhaitons, nous souhaitons que la très sainte Vierge soit parmi nous tous les jours, mais elle y est, nous le savons, elle est avec nous. Elle est présente à tous nos sacrifices de la messe, elle ne veut pas se séparer de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors notre dévotion à la Sainte Vierge doit être profonde, parfaite, mais elle ne doit pas être dépendante de quelques messages particuliers. Et enfin, troisième don de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice eucharistique. Sacrifice eucharistique. Dieu Jésus-Christ se donne lui-même à nous par le sacrifice eucharistique. Que pouvait-il faire de plus beau ? Et à quoi devons-nous être plus attachés qu'au saint sacrifice de la messe ? Je le dis souvent aux séminaristes, si la fraternité sacerdotale Saint Pie X a une spiritualité spéciale, je ne souhaite pas qu'elle en ait de spiritualité spéciale d'une certaine manière, non pas que je critique les fondateurs d'ordre comme Saint Ignace, Saint Dominique et Saint Vincent de Paul et que sais-je, enfin ceux qui ont voulu donner un cachet particulier à leur société, cachet qui sans doute était voulu par la Providence au moment où ils ont vécu. Bien, je pense que s'il y a un cachet particulier à notre fraternité sacerdotale Saint Pie X, c'est la dévotion au Saint Sacrifice de la Messe. La dévotion au Saint Sacrifice de la Messe. Que nos esprits, nos cœurs, nos corps soient comme captivés, je dirais captivés par le grand mystère du Saint-Sacrifice de la Messe. Et c'est par à mesure que nous comprendrons mieux ce grand mystère du sacrifice de la Messe et de l'Eucharistie, car ils sont liés, le sacrifice et le sacrement sont les deux grandes réalités du sacrifice de la Messe. Et dans la mesure où nous approfondirons ces choses, nous comprendrons mieux aussi ce qu'est le sacerdoce, la grandeur du sacerdoce, car il est lié intimement, je dirais métaphysiquement, au sacrifice de la messe. Par conséquent, dans la mesure où nous approfondissons ce mystère, dans la mesure aussi où nous approfondissons la grandeur du sacerdoce. Et c'est très important aujourd'hui, à l'époque actuelle. Nous avons besoin de ça, mes chers amis. Vous avez besoin d'être pris par cette spiritualité du Saint-Sacrifice de la Messe. Non seulement les prêtres, d'ailleurs aussi nos religieux, nos frères, nos religieuses et tous les laïcs aujourd'hui, tous nos chers fidèles qui sont ici présents. Nous devons avoir pour le Saint-Sacrifice de la Messe une dévotion plus grande que jamais, parce qu'elle est le fondement, elle est la pierre fondamentale de notre foi. Dans la mesure où nous n'avons plus cette dévotion envers le Saint-Sacrifice de la Messe, dans la mesure où nous faisons de ce sacrifice un simple repas, dans la mesure où les idées protestantes s'introduisent chez nous, c'est la ruine de notre sainte religion. Je n'ose pas vous citer l'exemple de ce qui s'est passé au Chili lorsque j'y suis passé, pendant les 3 jours que j'y suis passé. Mais cependant, puisque cela me vient à l'idée, je vous le dis tout simplement. Mais pour montrer jusqu'où en est allée la dégradation de l'idée du Saint-Sacrifice de la Messe dans les personnes les plus hautes et les plus élevées dans la hiérarchie catholique. Pendant les 3 jours que nous étions à Santiago du Chili, à la télévision, est apparu sur l'écran de télévision, une concélébration présidée par l'évêque auxiliaire de Santiago du Chili à la télévision. L'entouré, je ne sais pas moi-même, car je n'ai pas vu moi-même la télévision, mais tout cela vous a été dit par tous ceux qui ont assisté. 15 ou 20 prêtres qui assistaient et qui concélébraient avec lui. Pendant cette concélébration, l'évêque auxiliaire a expliqué aux fidèles, donc à tous ceux qui le voyaient à la télévision, il a expliqué que c'était un repas et que par conséquent il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'on puisse fumer pendant ce repas, et lui-même a fumé pendant le repas, pendant cette concélébration. Voilà où on en arrive. À quelle dégradation, à quel sacrilège peut arriver un évêque devant tout son peuple fidèle. C'est inouï, inconcevable. Il faudrait faire réparation de des choses comme ça pendant des années. C'est un scandale inimaginable. Mais ça vous montre à quel degré on peut arriver lentement mais sûrement. Alors nous devons être attachés au sacrifice de la messe comme à la prunelle de nos yeux, à ce qu'il y a de plus cher en nous, de plus respectable, de plus saint, de plus sacré, de plus divin. Ainsi donc, soyons attachés à ces choses. Et c'est cela qui est ce qu'est le séminaire. On dira tout ce qu'on voudra du séminaire. On le critiquera. On le critique à droite, on le critique à gauche, on le critique en haut, on le critique en bas, on le critique de tous les côtés. Le séminaire est ceci, le séminaire est cela. On a décidé au séminaire que ceci, on a décidé au séminaire que cela. On n'a rien décidé du tout. On n'a rien changé du tout. Le séminaire reste ce qu'il est. Le séminaire continue d'être ce qu'il a été et pourquoi il a été fondé. Le séminaire reste le séminaire catholique. Et si Dieu me prête vie, le séminaire ne changera pas. Je mourrai plutôt que de changer quelque chose à la doctrine catholique qui doit être enseignée au séminaire. Nous voulons garder la foi. Nous voulons faire des prêtres catholiques. Je viens de vous l'expliquer par les trois choses principales de l'Église catholique. Le pape, la très sainte Vierge Marie, le saint sacrifice de la messe. Ce sont les fondements de notre dévotion ici à Écône. Et quoi qu'il arrive, nous ne changeons pas. Avec la grâce du bon Dieu. Alors qu'on dise ce qu'on voudra, vous écouterez, vous entendrez dire à droite, à gauche, le séminaire a changé, le séminaire a pris une nouvelle orientation, le séminaire a ceci, le séminaire a cela. C'est le diable qui dit cela. Parce qu'il veut détruire le séminaire. Évidemment, il ne peut pas supporter des prêtres catholiques. Il ne peut pas supporter des prêtres qui ont la foi. Et hélas, il faut bien le dire, autour de nous, un peu dans tous les pays, mais particulièrement en France, il y a de telles divisions parmi ceux qui veulent garder la foi catholique que fussent alors les calomnies, les médisances, les paroles exagérées, des réflexions qui sont faites, insensées, qui ne sont pas justifiées. Ne nous occupons pas de tout cela. Laissons parler, agissons bien selon la volonté du bon Dieu, selon la volonté de l'Église catholique, en continuant ce que nos prédécesseurs ont fait, ce que nos ancêtres ont fait, ce que le Concile de Trente a demandé aux évêques de faire, ce qu'ils ont fait, la formation qui a toujours été donnée aux prêtres, et nous serons dans la sécurité d'être dans la vérité, et c'est tout. Pas besoin d'écouter ce qui se dit de droite et de gauche. Soyons, demeurons dans la sérénité, demeurons dans la foi. Et si d'aventure nous n'enseignons pas la foi ici, alors quittez-moi. Si je ne vous enseigne pas la vérité catholique ici, partez, chers séminaristes, ne restez pas. Mais si j'enseigne la foi catholique, si la foi catholique est enseignée ici, vérifiez. Vous avez toute la bibliothèque à votre disposition pour vérifier si nous donnons la foi catholique, si nous ne la donnons pas. Si nous ne donnons pas la foi catholique ici, alors il faut nous quitter. C'est un devoir pour vous. Mais nous ferons tout pour que la foi catholique continue d'être enseignée ici intégralement, dans son intégrité, afin que vous puissiez, vous aussi, porter cette vérité qui est si féconde en grâce et en vie, car il n'y a pas seulement la vérité, c'est la vérité source de vie, source de grâce. Et nous avons besoin de cette vie, les fidèles la demandent. C'est pourquoi nous avons des demandes partout pour avoir des prêtres, partout. Parce que les fidèles ont soif de la vérité, soif de la grâce de notre Seigneur, soif de la vie surnaturelle, soif de cette vie divine, de cette éternité vers laquelle ils se dirigent. Alors faisons confiance, confiance à ce que l'Église a toujours fait, pas confiance en Monseigneur Lefebvre. Je suis un pauvre homme comme les autres. Je n'ai pas la prétention d'être mieux que les autres, bien au contraire. Et je ne sais pas pourquoi le bon Dieu m'a permis d'avoir 30 ans d'épiscopat. Je pense que si humainement parlant je jugeais les choses, j'aurais préféré rester au Gabon, missionnaire, dans la brousse du Gabon, isolé. Je n'aurais pas eu tous les problèmes que j'ai eu pendant mes 30 ans d'épiscopat. Mais le bon Dieu l'a voulu. Et le bon Dieu continue de nous éprouver, de nous faire porter la croix. Bien, si c'est sa volonté, qu'elle soit faite. On continue de porter la croix. Mais ce n'est pas parce que le bon Dieu nous impose des croix que nous devons l'abandonner. Nous ne devons pas abandonner notre Seigneur, au contraire. Nous devons le suivre, et il nous a dit qu'il fallait le suivre si nous portions sa croix. Alors mes chers amis, soyez fidèles, fidèles à notre Seigneur, fidèles à la très sainte Vierge Marie, fidèles au pape successeur de Pierre. Quand le pape se montre vraiment successeur de Pierre, car c'est ça qu'il est, et c'est ça dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas des gens qui veulent rompre avec l'autorité de l'Église, avec le successeur de Pierre. Mais nous ne sommes pas non plus des gens qui veulent rompre avec 20 ans de tradition de l'Église, avec 20 ans de successeur de Pierre. Nous avons choisi pour être obéissants dans la réalité à tout ce que les papes ont enseigné pendant 20 siècles. Et nous ne pouvons pas croire que celui qui est sur le siège de Pierre ne veut pas enseigner ces choses-là. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Et si d'aventure il le faisait, eh bien Dieu le jugera. Mais nous ne pouvons pas aller à l'erreur parce que il y aurait une espèce de rupture dans la chaîne des successeurs de Pierre. Nous voulons rester fidèles au successeur de Pierre qui nous transmet le dépôt de la foi. Et c'est en cela que nous sommes fidèles à l'Église catholique, et que nous demeurons dans l'Église catholique, et que nous ne ferons jamais schisme. Nous ne pouvons pas faire schisme, c'est impossible, parce que dans la mesure où nous sommes attachés précisément à ces 20 siècles de tradition de l'Église, à ces 20 siècles de foi de l'Église, nous ne pouvons pas faire schisme. C'est cela qui nous garantit que nous avons le présent et le futur. Comme je vous l'ai dit, « Jesus Christus eri, odie et in secula ». Impossible de séparer le passé du présent et du futur. Nous appuyons sur le passé, nous sommes sûrs du présent et du futur. Alors, ayons confiance, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider dans toutes ces circonstances. Elle qui a été forte comme une armée rangée en bataille, elle qui a souffert le martyr, reine des martyrs, elle a souffert le martyr à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, est-ce que nous ne suivrons pas notre Sainte Mère? Est-ce que nous ne serons pas avec notre Sainte Mère prêts à souffrir avec elle aussi le martyr pour que l'œuvre de la rédemption se continue? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher monsieur le recteur, chers messieurs les professeurs, chers amis étudiants, mes bien chers frères, nous avons entendu ce matin, avec beaucoup d'émotion et d'admiration, le discours d'ouverture des facultés par monsieur le recteur. Il nous a tracé d'une manière admirable le combat que mène l'esprit de l'erreur contre l'esprit de vérité. C'est notre Seigneur lui-même qui a dit de Satan qu'il était le père du mensonge et que lorsqu'il mentait, il s'exprimait selon sa propre nature, selon son propre fond. Cette opposition entre la vérité et l'erreur dure depuis que Satan a réussi à faire communier dans cette erreur nos premiers parents. Et nous, nous sommes pris dans ce combat à la fin de ce 20e siècle. Mais nous vivons des circonstances tout à fait particulières. L'histoire nous montre que ce combat a été douloureux, pénible, particulièrement depuis 4 siècles. Mais nous assistons, en cette fin du XXe siècle, à un phénomène auquel nous n'aurions jamais cru pouvoir assister. Le chef de l'Église, les cardinaux, responsables de la curie romaine, des évêques, croient qu'en flattant l'erreur, ils pourront mieux la combattre. Ils s'imaginent qu'en prêtant l'oreille à ceux qui combattent notre Seigneur, qui est la vérité, ils auront plus de facilité pour faire régner notre Seigneur. Et nous savons bien que ce combat que nous appelons le combat des libéraux est un faux combat. Il a été condamné par les papes tout au cours du 18e et du 19e siècle. Et ainsi, nous nous trouvons entourés de personnes qui, le voulant ou ne le voulant pas, trahissent l'Église. La liberté religieuse, l'œcuménisme sont sortis des officines maçonniques. Et voici que ceux qui devraient défendre la vérité défendent ces mêmes principes. Et alors, les conséquences en découlent, qui sont la négation de la vérité, la négation du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous en voyons tous les jours les conséquences de plus en plus épouvantables, horribles. Nous l'avons vu à l'occasion du débat scolaire qui d'ailleurs a bien dépassé les limites de notre cher pays. Nous le voyons bien au cours de ce débat, ces vieux principes qui sont faits pour détruire l'Église sont remis en honneur. Le culte de la déesse raison n'est pas terminé. Mais vous avez remarqué que M. l'abbé Simoulin, à l'occasion de son discours, nous a laissé entendre à la fin qu'il nous fallait nous tourner vers notre baptême. Mais c'est précisément, je voudrais apporter quelques précisions quelques conclusions, je dirais, de cette évocation de notre baptême pour montrer qu'il y a irréductibilité entre cet esprit des gnostiques, cet esprit des faux philosophes du XVIIIe siècle, cet esprit scientiste, naturaliste, rationaliste, et l'esprit de l'Église. Et alors que ceux qui s'imaginent aujourd'hui, hommes d'Église, pouvoir défendre l'Église en passant à l'ennemi, vient livrer l'Église aux ennemis. Et pourquoi y a-t-il irréductibilité entre ces deux esprits? Nous oublions peut-être trop facilement cette vérité, ce dogme, cette vérité de notre foi, qui est inscrite en lettres d'or dans le catéchisme du Concile de Trente, dans le chapitre du baptême, précisément, à l'occasion des effets du baptême. Sans doute, la faute originelle que nous avons contractée par notre nature reçue de nos premiers parents, nous avons contracté la faute originelle, et si nous avons reçu le baptême comme adultes, nous avons pu avoir des péchés personnels qui ont été effacés par la grâce du baptême. Et l'Église l'enseigne, si une personne venait à mourir subitement après la réception du baptême, elle irait tout droit au ciel sans passer par le purgatoire. Mais si, après avoir reçu le baptême, le bon Dieu veut que nous passions encore quelque temps ici-bas, eh bien, il y a des conséquences du péché originel qui demeurent dans notre nature et qui blessent notre nature, même après la grâce du baptême, qui est source de vie, source de résurrection, résurrection spirituelle et plus tard résurrection corporelle. Il nous reste dans notre nature ce que saint Thomas exprime très bien en disant cette fomes peccati, l'espèce de désir du péché, de tendance au péché, qu'il exprime aussi d'une autre manière quand il dit que nous avons, après que nous avons reçu la grâce du baptême, encore en nous le vulnus naturae, la blessure de la nature. Nous sommes des malades et nous restons des malades, même après avoir reçu la grâce du baptême. Et cette vulnus naturae, il l'exprime aussi en la détaillant et en montrant que nos quatre vertus cardinales, vertus qui sont celles de notre nature et en même temps couronnées par les vertus infuses, les vertus de prudence, vertus de justice, vertus de force, vertus de tempérance, ces quatre vertus sont blessées, sont malades. Et comment l'exprime-t-il? La vertu de prudence est blessée par la vulnus ignorantiae, la blessure de l'ignorance. Et c'est précisément ce dont nous parlait ce matin, d'une manière très éloquente, notre cher recteur. L'ignorance, l'erreur. Nous sommes tentés par l'erreur. Nous sommes aveuglés. Nous ne voyons plus les choses spirituelles, alors que notre esprit est fait pour les choses spirituelles. Dieu est esprit, notre âme est esprit. Et ces esprits sont immortels. Tout le reste est temporel, tout le reste est corruptible. Par conséquent, nous devrions instinctivement nous attacher aux choses spirituelles. Pensons seulement à la très sainte Vierge Marie. Imaginez Marie dans son enfance. Elle n'avait pas cette fomes peccati. Elle n'avait pas cette blessure de l'ignorance. Alors la très sainte Vierge Marie élevait sa belle âme toute pure vers les réalités célestes, vers les réalités spirituelles. Voilà ce que nous devrions être, mais hélas, ce que nous ne sommes pas. Deuxième blessure, la blessure de la malice, qui touche la vertu de justice. Nous sommes portés au mal. Nous sommes portés à l'injustice, nous sommes portés à la désobéissance, à l'oubli de la vertu de religion qui est une vertu annexe de la vertu de justice. Et tout cela, l'enfant déjà montre des signes. Et les parents, bons chrétiens, le voient avec douleur, mais se sont obligés de constater ces blessures et ces maladies que l'enfant porte en lui. Et pourtant, il a été baptisé, ressuscité spirituellement. Troisième blessure, la blessure de l'infirmité qui touche la vertu de force. Nous sommes faibles et nous en avons bien conscience devant tous les scandales du monde, devant tout le mal qui est autour de nous. Combien de fois nous n'avons pas résisté? Combien de fois, après avoir pris tant et tant de résolutions au cours de notre vie, nous retombons dans les mêmes fautes? Blessure de la faiblesse, nous sommes malades. Quatrième blessure qui atteint la tempérance, blessure de la concupiscence. Vulnus concupiscentiae, dit saint Thomas. Alors là, c'est le désir de tous les biens de ce monde, affamés que nous sommes, des richesses, de la gloire, des plaisirs, de toutes sortes de plaisirs. Voilà ce que nous sommes, même après la grâce du baptême. Et c'est cela qui est canonisé et reconnu comme valable, comme une nature normale, par ces rationalistes, par ces fils de Satan, par ces fils de l'erreur. Ils veulent canoniser nos maladies. Ce n'est pas une nature pure, une raison parfaite, des vertus parfaites. Non, ils canonisent notre mal. Et nous le voyons, les lois elles-mêmes entérinent cette fomes peccati et toutes ces blessures de la concupiscence, de la faiblesse. C'est dans les lois maintenant, dans toutes les législations. C'est pourquoi, comme je le disais, il y a irréductibilité entre la doctrine de l'Église, entre ce que l'Église nous enseigne et ce que enseigne. Nous ne pourrons jamais nous entendre. Ils disent que la nature est bonne et que par conséquent toutes nos maladies sont des signes de santé. Nous, au contraire, nous allons vers le médecin de nos âmes. Et l'Église nous encourage à aller vers le médecin de nos âmes, qui est notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix, et précisément sur son calvaire, avec ses blessures, avec sa passion, avec son sang qui coule, pour racheter nos âmes, pour nous guérir de nos blessures. C'est ce que nous disons dans les oraisons avant notre Sainte Communion. Et c'est pourquoi nous tenons tant à notre sacrifice de la messe. Parce que nous avons besoin de la croix de Jésus. Nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin de sa passion pour nous guérir. Le médecin est venu. Il est là. Il est à notre disposition tous les jours. Dans son sacrifice qu'il nous laisse. Dans toutes ses blessures ouvertes, dans son cœur ouvert, ses mains transpercées. Il nous donne le remède. Alors nous sommes heureux d'aller nous confesser pour recevoir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de laver nos âmes dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes heureux de communier pour recevoir le sang de Jésus et sa force comme remède pour nos âmes. Nous en avons besoin. Et alors cela explique, bien chers frères, cela explique toute l'histoire de l'Église. On ne peut rien comprendre à l'histoire de l'Église, à la spiritualité de l'Église, à la philosophie de l'Église, si l'on n'a pas cette vérité devant les yeux. Pourquoi l'Inquisition? Parce que l'Église sait que nous sommes des malades et qu'il y en a parmi nous qui font du scandale, qui veulent attirer les âmes dans le péché, connaissant que ces enfants ont cette tendance au péché, cette fomes peccati, elle veut les protéger, comme une mère qui veut protéger ses enfants contre les assassins qui viendraient corrompre ou tuer leurs enfants ou corrompre ses enfants dans leurs âmes. L'Église, manifestant son amour pour les âmes, a voulu cette inquisition contre les erreurs, pour lutter contre l'erreur, contre les hérésies. Toutes les luttes que l'Église a engagées ont été faites précisément pour nous protéger contre nous-mêmes et contre les ennemis de nos âmes. Pourquoi le bon Dieu a suscité des âmes et des héros comme Jeanne d'Arc? Sinon pour nous protéger aussi contre ceux qui auraient pu nous faire devenir protestants plus tard. Sans doute elle est venue avant le protestantisme, mais le protestantisme était déjà à nos portes. Et nous serions devenus tous protestants si nous étions restés anglais, nous serions tous anglicans. Si Saint Pie V n'avait pas osé les armées contre les musulmans, nous serions tous musulmans. L'Église a employé la force, le combat, même matériel, pour protéger ses enfants contre l'erreur. Et alors l'Église nous demande de combattre cette ascèse. Qu'est-ce que c'est que cet esprit ascétique? Ascèse, ascésis, c'est le combat. Il nous faut combattre contre nous-mêmes et contre tout ce qui peut être l'ennemi de nos âmes. Alors devant cet abandon, devant cette méconnaissance de cette réalité par les hommes d'Église aujourd'hui, les hommes d'Église ne combattent plus. C'est bien simple, on a enlevé dans notre liturgie tout ce qui signifiait ce combat. On a enlevé, on a supprimé dans les psaumes qui signifiaient le combat contre les ennemis, dans cette fameuse Bible œcuménique. On ne veut plus combattre, soi-disant, parce qu'il n'y a plus d'ennemis. On n'a donc pas besoin de combattre au XXe siècle, puisqu'il n'y a plus d'ennemis. Alors que jamais l'Église n'en a eu autant. Jamais nous n'en avons eu autant qu'aujourd'hui. Par tous les moyens que Satan a à sa disposition et que les francs-maçons ont à leur disposition pour corrompre l'humanité. Nous avons besoin de nous rappeler la nécessité du combat. Et ce matin encore, notre cher recteur faisait allusion à la croisade. Eh bien oui, soyons des croisés. Prenons le flambeau du combat à la suite de tous les héros, à la suite de notre Seigneur. Si notre Seigneur avait fait de l'œcuménisme, il ne l'aurait pas crucifié. Si les martyrs avaient fait de l'œcuménisme, ils n'auraient jamais été martyrisés. Prenons au contraire le flambeau de toutes ces âmes qui ont préféré mourir pour la vérité plutôt que de favoriser l'erreur et continuons ce combat aujourd'hui. Certes, nous sommes peu nombreux. Nous sommes obligés de le constater. Mais remercions Dieu. Comment le bon Dieu nous a-t-il choisis? Vous, cher monsieur le recteur, vous, chers messieurs les professeurs, vous, chers messieurs les étudiants, comment le bon Dieu vous a-t-il choisis pour être des instruments du combat en faveur de la vérité pour lutter contre l'erreur? En ces temps si difficiles, si douloureux, où l'erreur règne partout, partout, dans toutes les législations, dans le monde entier, par tous les moyens de communication, l'erreur est diffusée, le mal se répand. Et nous avons été choisis pour maintenir la vérité, pour maintenir le flambeau de la vérité contre l'erreur, maintenir le flambeau de la sainteté contre le vice, maintenir la civilisation chrétienne contre la civilisation de l'erreur et du désordre. Remercions Dieu et demandons aujourd'hui à celle qui n'a pas connu cette fomes peccati, qui n'a pas connu ces blessures de la nature et qui précisément est un objet d'horreur pour ces fauteurs du mensonge qui exaltent la nature, car la vraie nature, celle qui avait toutes les vertus naturelles et toutes les vertus surnaturelles, c'est la Vierge Marie. Ah, si on canonisait la raison de la Vierge Marie, si on canonisait les vertus de la Vierge Marie, alors nous serions dans la vérité. Mais précisément, comme elle est un exemple de l'erreur que répandent ces hommes de mensonges, ils ne peuvent pas en voir l'image de la Vierge Marie. Mais nous, au contraire, heureux d'avoir cet exemple magnifique que le bon Dieu met devant nos yeux, cette Vierge toute pure, cet Esprit qui vivait dans le ciel, eh bien, demandons-lui, au cours de cette année qui va se dérouler pour les facultés Saint-Pédis, eh bien, que cette année soit mise sous sa protection comme toujours, qu'elle soit la reine de nos intelligences, qu'elle soit la reine de nos cœurs, et qu'elle sauve nos âmes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.